Miaou, 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 miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Cha-cha-cha.
Le bar à chat, l'émission chat, heureuse,
dans les
Saint-Afrique.
Je prends toujours mes pieds là dans les fils, c'est un peu pénible.
Mais alors, c'est quoi toi ton signe alors?
Mon signe est poisson, je suis un petit poisson, on dirait pas, mais comme j'ai un ascendant sagittaire, forcément.
Ah, ça t'es explique. Sagittaire, hein, moi aussi oui. Je suis sagittaire. T'es ascendant sagittaire ou c'est ton signe?
Non, moi je suis, c'est mon signe.
Ah, moi aussi, c'est quoi ton ascendant?
Ah, super. Bonjour copine.
Oh, on est copine.
C'est quoi ton ascendant?
Ah bah ça dépend. Hein.
Non, ça ne dépend pas.
Si, ça dépend.
Non, ça ne dépend pas.
Si, je suis balance, ascendant balance pour... l'astrologie, je ne sais pas comment tu l'appelles celle-là.
Ah ben, je suis corbeau.
Ton année ?
Oui. Bienvenue à toutes mes petites chattes sur l'émission numéro 4 du Bar à Chat, où je vous espère toujours plus nombreuses et nombreux.
Bien sûr.
Donc,
il y a nous en plus déjà. Non, c'est bon.
Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre à l'oreille, mais nous sommes plus de trois par rapport aux dernières
faites
émissions.
Faites du bruit, ouais, ouais.
Nous avons deux acolytes féminines qui nous ont rejoints à notre plus grand bonheur. Donc voilà, vous allez apprendre à les découvrir au fil de l'émission et elles se présenteront à vous. Pour faire un petit récap en fait de ce qui va se dire sur cette émission, nous allons commencer avec Félice Potin qui a priori je pense va nous parler de haute technologie capillaire.
Oui, vous allez voir, c'est vraiment de la haute technologie.
Oui, c'est tout.
C'est une surprise.
Il n'y a pas de problème. Ensuite, nous allons avoir Emma. Nous allons avoir Chamanta, pardon.
C'est bon, je ne suis pas la seule.
Je me fais avoir à chaque fois. J'ai déjà fait.
Bah déjà qu'elle a plein de personnalités, alors...
Nous allons avoir Chamanta, notre chatte multipolaire, qui va nous parler de souvenirs télévisuels de jeunesse.
Exactement, je vais vous parler de la série Dr Queen, femme médecin.
Voilà. Par la suite, nous aurons Sandrine, qui va inaugurer une nouvelle rubrique au sein de cette émission, donc, qui va nous parler des astres et non de désastres.
Désastre, ouais, je vous amène un peu dans les étoiles, en espérant convaincre certains de leur utilité.
Voilà.
Oh, Phil, ne fais pas cette tête, vous le verriez à la technique, il souffle déjà. Déjà.
Alors, nous avons également avec nous Mémeille, qui aujourd'hui ne va pas avoir de sujet à proprement parler, mais va plutôt suivre les itinérances voilà, de Félix Potin.
Voilà, peut-être intervenir un petit peu par-ci, par-là.
Voilà.
Et puis compléter sur des recettes de beauté, parce que c'est tellement important.
Effectivement. Et enfin, donc, moi-même, Chaussette, je vous parlerai de déchets et conscience.
Wow.
Voilà, donc... A priori, nous avons fait le tour. Je pense que concernant la méthode capillaire révolutionnaire...
On lance la chronique belle.
Oui,
jolie.
Oui. Alors
jolie.
Tout ensemble, c'est belle,
belle jolie.
Mais surtout belle.
Voilà, et encore jolie, ouais. Donc voilà, donc, comme d'habitude dans mes errances sur la toile, quand je trouve une idée rigolote pour notre rubrique Belle et Jolie, je me dis, j'en ai pour 5 minutes à rassembler les infos, c'est tellement barjot ce truc, il ne doit pas y avoir grand monde qui a des choses à dire. Et à chaque fois, je découvre un univers parallèle. La quatrième dimension m'aspire et me ravit l'imaginaire. Je découvre des mots de passe de communautés inspirées comme... blogosphère beauté, beautysphère, et là je suis tombée sur reverse shampoo ou shampoing à l'envers.
Reverse shampoo, j'adore.
N'est-ce pas? Ça m'a d'abord fait marrer, puis j'ai été fascinée par le bling bling de la beautysphère internationale. Alors, j'ai tout de suite pensé à vous faire la blague du shampoing à l'envers, c'est pas se laver la tête en faisant le poirier. Mais une fois de plus, force est de constater qu'il n'y a plus ni idée ni blague innovante, c'était déjà largement fait. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet de cette nouvelle extraordinaire. Le shampoing à l'envers, c'est inverser l'ordre des produits. Ça marche pas pour ceux et celles qui se lavent la tête avec seulement du savon ou du shampoing. Et oui, pour inverser les produits, il en faut au moins deux. Hein, donc j'ai nommé le shampoing et l'après-shampoing. D'ailleurs, on ne devrait pas plutôt l'appeler l'avant-shampoing ? Eh bien non, parce que certaines ont encore intérêt à l'utiliser après. L'après et surtout pas avant. Non, le mieux serait de l'appeler l'avant-après. Bon, laissons ça aux spécialistes du marketing et penchons-nous sur ce révolutionnaire stratagème. Il s'avère donc que, soucieuses de notre crinière, nous avons des soucis avec les cheveux gras ou trop secs, ou même gras d'un côté et secs de l'autre. De la racine à nos pointes, nos cheveux ont parfois des identités différentes, n'est-ce pas ?
Non mais gras et sec en même temps, c'est possible ?
Mais oui ! De quoi nous mettre la tête sans dessus dessous. Alors gras et sec, c'est plutôt gras à la racine, tu vois, et puis sec, sec aux pointes.
Okay.
Voilà. Alors comment faire pour qu'ils soient beaux ? Eh bien, les laver, pas les laver, telle est la question. Alors, il y a des masques, il y a des baumes, les huiles, les recettes de grand-mère, les shampoings secs, ceux qui lavent en plus et qui soignent en plus de laver, ouais, etc. Il y a plein de choses. Mais l'idée géniale est donc d'appliquer d'abord l'après-shampoing ou baume, qui va, si on a de la chance, embellir les cheveux, et ensuite se laver la tête avec le shampoing. Oui, parce que l'après alourdit le cheveu, alors qu'utiliser avant, ça le fait tout beau. Et inversement, le shampoing avant, ça décape trop, alors qu'après, ça enlève le surplus d'après qu'on a mis avant. Du coup, après, t'as les cheveux plus beaux qu'avant. Ça va tout de suite ?
Oh là 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 là, c'est compliqué, je sens qu'en sortant d'ici, je vais me raser la tête, comme ça, plus de problème.
Donc même si jusque-là, nous croyons naïvement que l'après-shampoing servait à réparer le côté trop abrasif du shampoing et faire les cheveux tout doux, eh bien en ces temps modernes, réinventer, c'est changer l'ordre des choses. En fin de compte, c'est une nouvelle approche des susdites choses. Bon, blague à part, cette méthode, je l'ai testée pour vous. Et pour mes cheveux secs et frisés, shampoing à l'envers est juste à proscrire. Sauf si tu vas à une soirée Jackson 5. Ouais, parce que là, tu vois, ça fait le... Voilà. Bon, mais cette méthode, elle est quand même très efficace pour celles qui ont le cheveu gras, parce que du coup, il est moins lourd et qui regraissera beaucoup moins vite. Ou pour celles qui n'ont pas beaucoup de cheveux ou des cheveux très fins, parce que ça donne du volume. Pour celles qui ont les cheveux secs, un autre conseil de blogueuse, vachement important. Gardez l'après pour après, mais ne le rincez pas. Voilà. Hein ? Toujours heureuse de rendre service, je continue de guetter pour toi les idées incroyables vues sur le net.
Et oh, merci, mais je vais ajouter quelque chose.
Ah ben avec plaisir.
Hein, parce que j'ai trouvé dans un bouquin qui s'appelle « Pour les jeunes filles, l'art d'être charmante », quelques recettes qui datent de 1928.
Oui, ouais, faut le préciser. Ouais.
Et alors, il y a des recettes de beauté dans ce bouquin. Et il y a exactement 4 recettes. La première... Je vous le dis tout de suite, c'est justement de ne rien faire.
Ah, c'est bien, j'aime bien celle-là. Ouais.
Ouais. Tu te laves pas.
Tel qu'on est, ben pas des yeux avec les je sais pas comment on dit
là. L'eyeliner.
Donc j'ai jamais eu. Bon, les lèvres sans rouge, les joues sans poudre, et là on est belle naturellement.
Bah alors, en fait on est toutes belles là en fait. On est toutes absolument magnifiques.
Absolument. La deuxième recette, c'est de sourire. Alors voilà, hein, le sourire avec naturel et ce qui embellit toutes les femmes.
Il y a Phil qui suit la recette. Là.
Troisième recette.
Magnifique chose.
Troisième recette, l'oubli de soi. Ah. Alors là, bon, on change de niveau, hein, oui. N'est-ce pas ? L'oubli de soi, le don de soi. Et là... Tout votre être s'en ressent. Vos mains se tendent, vos gestes sont une caresse. Votre bouche a le plus joli des sourires, le sourire de la générosité. Vos yeux brillent, ardents ou doux, de l'élan qui vous emporte.
Waouh ! On ressemble à une bonne poire, quoi.
Quatrième recette. C'est encore mieux si cette beauté vient de plus loin encore. Des profondeurs de l'âme. Et de la conscience. La fraîcheur du visage et la fraîcheur de l'âme sont les deux belles roses de votre beau printemps.
Waouh, c'est beau, c'est extraordinaire.
Avec ça, ouais. Qu'est-ce qu'on va être belle.
Ouais, moi, je constate que déjà à l'époque, ma grand-mère était déjà beaucoup plus moderne que ça.
Et des amis, quelques complices de ses délices pour assouvir tous ses caprices. Et qu'il faut de tout pour faire un monde, pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de l'eau pour se grandir, et puis les flammes du désir, et même les armes pour se construire. Il faut le noir, il faut le blanc, il faut les cailloux, les diamants. Il faut le froid et la chaleur pour s'endormir tout en douceur. Il faut la pluie et le beau temps, il faut les fleurs et les serpents, et puis les feuilles qui font la terre, qui te font voir mondes et merveilles. Il faut de l'orage dans ton cœur, il faut de la rage, de la terreur, quelques nuages au fond du ciel qui font la pluie, les arcs-en-ciel. Il faut de tout pour faire un monde, pour faire un monde. Il faut les formes et les couleurs, il faut l'énergie, la laideur, quelques étoiles au fond des cieux, quelques mirages à tes yeux. Il faut les atomes, les cellules, il faut les choses et les bidules, il faut les trucs et les machins qui te font croire que tout va bien. Et il faut de tout, ouais, 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 pour faire un monde, pour faire un monde. Oh, il
faut de tout,
faut de tout,
faut de tout,
pour faire un monde,
faut de tout,
pour faire un monde. Il faut de tout, il faut du monde pour faire un tout, ouais.
Merci les filles pour ces petits instants beauté. Tout de suite, nous passons sans transition à quelque chose de totalement différent. Oui, je sais, mais moi j'aime le dire sans transition. Ça me fait rire justement. Donc nous allons rejoindre les plaines sans du Colorado. Allez Chamanta, vas-y.
Miaou. Je vais vous parler de Dr. Quinn. Dr. Quinn, vous savez, c'est cette série qui passe, repasse et re-repasse sur les chaînes télé depuis 23 ans. Puisque la première diffusion était en 1993 et que ça continue aujourd'hui. Et ça m'interroge quand même, ce succès. L'autre jour, j'étais chez une amie, et bien sa fille était en train de regarder Dr. Quinn. Et là, petit moment de nostalgie. Je me suis revue, chez moi, à 12 ans, le mercredi midi, sur mon canapé devant M6. J'étais une grande fan de cette série. Alors, de quoi ça cause ? Déjà, le titre original, en anglais, puisque la série est américaine, vous l'aurez deviné, c'est Dr. Quinn, Medicine Woman. Et on a traduit ça en français par Dr. Quinn, femme médecin. Sauf que le mot médecine en anglais ne veut pas dire médecin, on dit doctor, mais médicament ou médecine. Il s'agit d'une expression utilisée par les Amérindiens pour désigner leur guérisseur, qui avait aussi un rôle spirituel fort dans la communauté. Une traduction plus juste serait donc Dr. Quinn, femme médecine, ou même carrément chamane. Ça se passe au pays des Indiens et des cow-boys, dans la petite ville de Colorado Springs, dans l'ouest sauvage des États-Unis. La série débute en 1867. Le personnage principal est Michaela Quinn, l'une des rares femmes médecins de l'époque. Elle est originaire de Boston et vient s'installer à Colorado Springs à la mort de son père.
Tout le monde disait qu'une femme médecin ne pourrait pas survivre seule à la limite des terres colonisées. Mais j'étais bien décidée à lutter de toutes mes forces. Je n'étais plus seule maintenant. J'avais une famille, et c'était sans doute le plus grand défi de ma vie.
C'est l'actrice britannique Jane Seymour qui incarne Dr. Quinn à l'écran. Je lui ai toujours trouvé quelque chose d'un peu étrange. J'ai eu ma réponse quelques années plus tard, et pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, je dévoile un scoop. Attention. Ta-da-da ! Jane Seymour a les yeux verrons. Ils sont de deux couleurs différentes, l'un est vert et l'autre est marron. On appelle aussi cette particularité l'hétérochromie. Bon, voilà pour l'anecdote. C'est l'américaine Beth Sullivan qui a créé, réalisé et produit Dr. Quinn. Il s'agit de la première femme à avoir réussi dans ce milieu, traditionnellement masculin, celui des séries télévisées de ce format. Avant Dr. Quinn, Beth Sullivan a créé deux téléfilms centrés sur des problématiques sociales, notamment les femmes battues. Ce qui m'a plu dans Dr. Quinn, c'est que c'est une série féministe. Mais si, ça commence avec le constat qu'en 1852, pour la première fois, 8 femmes sortaient diplômées de la faculté féminine de médecine de Pennsylvanie, seul établissement médical des États-Unis à les accepter. Tiens, ça fait écho à mon papier du dernier barachat sur les sorcières, c'est presque la continuité. Enfin bref, donc malgré son diplôme, Dr. Quinn doit se battre pour être considéré comme un médecin à l'égal d'un homme. La série traite aussi toutes sortes de sujets liés à la condition des femmes. La violence conjugale, par exemple, avec le personnage de Dorothy, battu par son mari. La prostitution, on suit l'histoire de plusieurs prostituées comme Myra. La santé, l'infertilité, la fausse couche, le cancer du sein, la ménopause. Les droits des femmes, le divorce, le droit de vote. Le devoir conjugal, la conciliation du rôle de mère et de la vie professionnelle, etc.
Au regard de la loi, une femme mariée est comme un enfant. Il lui est interdit de signer un contrat ou d'être propriétaire.
Oui, c'est juste.
Et vous n'avez pas voix au chapitre sur des sujets qui vous concernent, qu'il s'agisse de choisir une institutrice pour vos enfants ou encore de décider si les rues doivent être ou non pavées.
Et on ne peut rien dire non plus sur ce qui se passe au saloon.
Je suis parfaitement d'accord. Les hommes boivent beaucoup trop. Ça les conduit à se battre et à battre leur femme.
Mon mari passait toutes ses soirées au saloon. Il s'est enfui avec une fille. Il a emmené mes enfants avec lui. Le juge a dit que s'il voulait, il en avait parfaitement le droit. Qu'est-ce que c'est que ces lois qui permettent à un homme d'enlever ses enfants à une mère?
Des lois faites par et pour les hommes.
Je ne savais rien de tout cela. Franchement, je n'avais pas réalisé que je n'avais aucun droit.
Je n'y avais jamais réfléchi. Voilà pourquoi cette campagne est si importante. C'est une occasion unique de faire entendre votre voix.
Ça m'a vraiment plu de voir une femme scientifique, cultivée, antiraciste, féministe, écologiste. Contrairement à beaucoup de personnages féminins dans les séries, elle n'est jamais sexualisée. Je pense au hasard à la série Charmed, qui passait aussi sur M6, avec 3 héroïnes sorcières, dont les principaux atouts étaient quand même leur décolleté. Dr. Quinn, elle se travestit en homme pour participer à une course de chevaux, et elle est candidate à la mairie. C'est quand même autre chose. Et puis, même si Sully, son chéri, la sauve plusieurs fois, au final, c'est elle qui sauve les gens le plus souvent. En même temps, c'est son métier. La série a reçu plusieurs prix pour sa reconnaissance des Indiens d'Amérique et ses valeurs environnementales. On y voit très fréquemment des Amérindiens de la tribu des Cheyennes. De nombreux épisodes montrent leur mode de vie, leurs coutumes et leur médecine. On y voit aussi les relations tendues avec les Blancs, les persécutions dont ils ont fait l'objet, leur confinement dans des réserves, leur révolte et leur lutte pour les droits de la nation Cheyenne.
Super.
Je vais aller voir ce chasseur de bisons. Non, c'est trop dangereux de quitter la réserve.
Alors on va le laisser faire.
C'est pas d'un autre, c'est juste ça, c'est tous.
Non, je ne laisserai pas mon peuple mourir de faim.
Deux épisodes sont notamment consacrés à la bataille de Ouachita, présentée comme un terrible massacre. La série dénonce aussi la condition des Noirs et des immigrés. Un couple noir, Grace et Roberti, font partie des personnages principaux. L'épisode Le Premier Cercle raconte la fondation et les débuts du Ku Klux Klan. Alors oui, parfois la caricature est assez grossière. La population est souvent raciste, machiste, superstitieuse et facilement manipulable par des charlatans. Et c'est presque toujours le Dr. Quinn qui joue la médiatrice et donne une leçon de morale à tout le monde. Même si heureusement, en 150 épisodes, ça lui arrive aussi de se tromper.
Est-ce si caricatural que ça?
C'était peut-être pas si caricatural que ça.
À 44 minutes l'épisode environ, ça fait 6600 minutes, soit 110 heures de Dr. Quinn, sans compter deux téléfilms qui ont été produits après. On suit donc les aventures des habitants de Colorado Springs pendant plusieurs années. Et c'est intéressant de voir la ville, comme une mini-société américaine, se transformer au fil des saisons. On assiste à l'avancée inexorable du monde « civilisé » entre guillemets sur le monde sauvage. L'arrivée du chemin de fer vient bousculer les habitudes et va avoir un impact considérable sur les modes de vie. En témoigne par exemple le premier épisode de la saison 4, après le mariage, avec l'arrivée du premier banquier de la ville, Preston Lodge.
Tout dépend de votre façon de penser et de la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Si vous pensez petit, vous serez petit. La réussite ne vient que lorsqu'on se décide à peindre sur une plus grande toile. Grace, vous devriez servir 100 repas par jour, dans un restaurant spacieux, avec des cuisiniers et des serveuses sous vos ordres. Dorothy, vous pourriez avoir toute une rangée de presse et des journalistes qui sillonnent le pays pour vous. Jake, qu'est-ce que vous faites ?
Je suis le maire.
C'est le barbier.
Oui, avec un seul fauteuil. Et pourquoi pas 2, 3 ou 10 fauteuils à partir d'aujourd'hui ? Une nouvelle ère commence. L'arrivée du chemin de fer va élargir nos horizons et nous devons être prêts à faire des rêves plus audacieux. N'ayez pas peur d'être ambitieux, car je vous apporterai mon aide et mon soutien afin que vos rêves deviennent réalité.
Parallèlement à ce développement du capitalisme, on assiste à l'évolution des connaissances médicales sur les traitements, les instruments utilisés, la vaccination. Et ce sont aussi les prémices de l'écologie. Un épisode est consacré à la pollution d'une rivière à cause d'une exploitation minière. Plusieurs naturalistes séjournent à Colorado Springs pour étudier la faune et la flore. Et il est aussi question de la création du premier parc naturel national. Le Dr. Quinn va même tenter d'enseigner la toute nouvelle théorie de l'évolution de Charles Darwin. Mais cette fois-ci, elle échouera en se confrontant à l'Église. Même dans le couple, Dr. Quinn est progressiste. Elle arrive à faire accepter à son mari qu'elle gagne plus d'argent que lui. Car oui, désolée pour le spoiler, mais elle épouse Sully à la fin de la saison 3. Et leurs conflits se résolvent le plus souvent par une bonne discussion dans laquelle chacun reconnaît ses torts. C'est presque les débuts de la communication non violente. Bref, tolérance, égalité, fraternité, solidarité, écologie, féminisme, c'est tout plein de belles valeurs cette série et ça fait du bien. Alors oui, ça commence à dater et peut-être que vous en avez marre de l'avoir repassée pour la énième fois sur vos écrans. Mais je me demande, est-ce qu'il existe une série récente qui porte autant de belles valeurs ? En tout cas, moi, je m'en fous, j'ai pas la télé.
Take that ribbon from my head. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my.
Thank you.
Ah, merci Samantha. J'ai du mal aujourd'hui. De nous avoir fait écouter John Baez, donc avec ce superbe titre, difficile à ne pas écorcher en le prononçant. Help me make it through the night.
Ouh.
Ça va, c'est pas mal. Bon, des petites réactions bien, sur
ouais, moi je réagis quand même par rapport à Charme, c'est tout, les nanas qui se mettent en avant physiquement. On peut pas dire non plus que l'actrice est un gros laidron, quoi. Elle a pas besoin de, en effet, de faire un super décolleté, mais elle est déjà quand même magnifique.
C'est vrai
à quand une série où on voit une nana qui fait 70 kilos, qui a les dents de travers et puis des boutons partout, on s'en fout, quoi. Ah, il y en a peut-être, hein, mais c'est, je suis pas très télé non plus.
Il y en a quelques-uns,
si, mais bon, tu vois.
Il y a la série où ils sont dans les prisons, là. Oui. Orange is the New Black.
Orange is the New Black, exactement.
Ouais, non, ça m'aide pas. Bon, ok. Il y en a encore heureux. Mais bon, voilà. C'était tout. C'était ma petite réaction.
Voilà. Donc, il est maintenant venu le temps d'inaugurer notre nouvelle rubrique présentée par Sandrine, qui va nous faire partir loin, très loin, mais pas tant que ça, finalement. Alors, allons-y.
Loin, si proche.
Quand la Lune et Neptune jouent avec la Terre.
Elles sont loin de nous, ces planètes, et pourtant si proches à leur manière. C'est avec un immense plaisir que je passe derrière le micro aujourd'hui.
Ouais,
wouhou ! Enfin, oui, enfin, sur Radio Sainte-Afrique, une chronique qui parle astrologie. Alors, pas de fausses ou vraies prévisions, je ne suis pas astrologue. Pas d'horoscope non plus. Parce que pour savoir qu'après les chocolats de Pâques, Phil, notre technicien qui est taureau d'ailleurs, il ne doit pas faire d'excès sinon la crise de foie le guette, franchement, j'ai pas besoin des étoiles et lui non plus. Alors, me direz-vous, ben pourquoi l'astrologie ? Eh bien, ma rubrique a pour seule prétention de vous expliquer comment, d'une certaine manière, l'astrologie peut être un outil de connaissance de soi, peut-être de connaissance des autres, voire de développement personnel. Alors l'astrologie Kesako, la plus ancienne tablette astrologique connue remonte aux environs du 2e millénaire avant JC. Alors JC, c'est Jésus-Christ. Hein.
Oui, c'est pas Jean-Claude.
C'est pas Jean-Claude. Non, non, c'est pas Jean-Claude, c'est Jésus. Bon, donc, elle nous apprend que les prêtres babyloniens, déjà eux, interrogeaient les astres pour savoir quel moment était le plus favorable. Alors, pour une récolte, pour la construction d'un temple, pour l'invasion d'un territoire ou tout autre événement public. La configuration du ciel pouvait aussi annoncer une famine, une épidémie, ce truc quoi. Bien entendu, les dangers annoncés n'étaient pas inéluctables, ils pouvaient être écartés par des rites et sacrifices. L'astrologie babylonienne pardon, était donc de caractère essentiellement magico-religieux et surtout collectif. En aucun cas, il ne s'agissait de prédire le sort d'un individu en particulier. Le glissement vers une astrologie individuelle est assez flou. En fait, le premier horoscope personnel qui nous soit parvenu date de 419 avant notre ère et il est grec. L'astrologie telle que la pratiquent les Grecs, puis l'Occident médiéval d'ailleurs, apparaît donc comme une synthèse de l'astrologie magico-religieuse des Babyloniens et de la science astronomique grecque. Il s'agissait alors de prévoir l'accomplissement lointain, autant pour les individus que pour les événements publics. Et mon astrologie à moi alors ? Alors vous vous concentrez un tout petit peu parce que c'est quelque peu complexe. Alors mon astrologie, bien, il s'agit d'un courant majeur de l'astrologie moderne qui est dite astrologie humaniste. Ce courant se réclame principalement des idées de Dan Rudyard qui fut à la fois astrologue, philosophe, écrivain et artiste. La principale nouveauté de l'astrologie humaniste est son intégration des découvertes de la psychologie moderne, c'est-à-dire la psychologie inspirée de Freud et surtout de Jung. Tout individu va être considéré comme un être en devenir, engagé dans un processus de transformation et d'évolution. Les cartes du ciel sont alors envisagées comme des ensembles de phases de processus cycliques. Par conséquent, chaque position planétaire est avant tout l'une de ces phases et donc inclue dans un cycle. Enfin, le thème astral natal est envisagé comme ensemble de besoins ou défis que la vie propose à l'individu. Et chaque défi, en fait, on va y répondre, mais on a la liberté de choisir la propre manière de répondre à ce défi. Alors, je sais, c'est un peu complexe, surtout pour les novices qui n'y connaissent rien. Je vous parlerai dans d'autres émissions, comment on monte un thème, qu'est-ce que c'est qu'un thème. Je vous parlerai de cartes du ciel, je vous parlerai des différents signes, etc. Le principe général quand même de l'astrologie humaniste n'est donc pas de tenter de prévoir les événements et les conditions extérieures. Il s'agit plutôt de comprendre et d'accepter la nécessité et la spécificité de chaque phase que l'on vit, qu'il s'agisse d'un processus de croissance et d'évolution, ou même d'un processus de décroissance, voire d'échec. Concernant les positions et les aspects planétaires, il n'y a pas de bien ou mal, de bon ou mauvais. Ne me demandez pas si c'est bien d'avoir Mars en Cancer, on s'en fout. On parle de dynamique, de nécessité, de difficulté. Donc pour conclure là sur quand même l'astrologie humaniste, je citerai Marie-Ève Ruperti-Cavaignac, qui est l'une des chefs de file quand même du réseau d'astrologie humaniste et qui dit ceci. Ce qui importe, ce n'est pas de faire de la caractérologie ou de prédire des événements, mais de comprendre, c'est-à-dire prendre en soi, le matériel de base de notre disposition, c'est-à-dire le thème natal, et de comprendre les enjeux ou défis à vivre à un moment donné, en fonction du niveau où l'on vit. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Alors, je ne veux pas trop vous embêter comme ça avec plein de théories, mais dans chacune de mes chroniques, je ferai une petite référence à l'astrologie à l'heure actuelle, ce qui se passe dans notre ciel. Donc, en ce mois de mai, il y a quand même quelque chose qui est un peu remarquable, c'est un carré Pluton-Uranus. Ouais, je sais, carré, ça parle plan, ça parle pas à certains, Pluton-Uranus non plus. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, pour dire simplement, il y a une tension entre ces deux planètes. Oui, alors je dirais planète, étoile pour les purs et durs scientifiques, tout n'est pas planète, tout n'est pas étoile, mais c'est pas grave. Donc il y a une tension entre ces deux planètes, je vais vous expliquer pourquoi, mais sachez que ce sont des planètes que l'on dit collectives, elles sont loin de nous, donc on est touché un petit peu individuellement, mais surtout les masses, les populations vont être touchées, et elles sont très lentes, donc ça va être de manière durable en fait qu'il va y avoir cette tension. Alors Pluton d'abord, elle est découverte en 1930, c'est là que c'est intéressant, en pleine ascension d'Hitler et en plein chaos économique. C'est à ce moment-là qu'on a découvert Pluton. Donc l'énergie de Pluton, elle représente la destruction des impuretés. La conscience de Pluton, c'est la destruction. Il faut détruire les édifices mal construits, les idées qui ne sont pas établies sur une profonde compréhension de la vie, les engagements qui ne manifestent plus les plus belles valeurs de la création. La conscience de Pluton, aussi dure puisse-t-elle semble être, est la conscience qu'il est préférable de détruire ce qui fait régresser le monde, ce qui ne porte plus la saveur de l'essence de la vie. Donc ça, c'est Pluton d'un côté. De l'autre, vous avez Uranus. Uranus, qui représente en astrologie notre principale énergie de libération et d'émancipation. C'est dur à dire.
C'est ça.
Et alors, vous allez voir comme il n'y a pas de hasard, hein. Elle a été découverte en 1781, quelques années avant quoi ? Eh bien, la déclaration de l'indépendance des États-Unis et la Révolution française en 1789. Donc Uranus, en fait, c'est tout ce contexte historique, c'est qui explique plein, je sais pas comment dire, l'émancipation d'un système féodal. Voilà. L'énergie d'Uranus, il faut faire attention, elle est soudaine, brutale et sanglante parfois, ben, comme l'ont été les révolutions, les guerres d'indépendance. Et elle est basée sur la liberté de l'être. C'est un astre Uranus qui nous aide à penser autrement, à nous détacher des habitudes ancestrales. C'est une vie dans laquelle nous octroyons en fait une liberté nouvelle. Avec Uranus, on se rend compte que notre humanité aspire à beaucoup plus de grandeur que la sécurité, le confort et l'organisation. Voilà, on se rend compte que pour atteindre cette grandeur, il faut s'affranchir des pensées limitantes qui assimilent le bonheur juste à la construction d'une société bien ordonnée. Alors bien sûr, c'est pour ça, chacun le vit à son niveau, chacun à son niveau fait comme il peut et le prend comme il peut. Donc Uranus, c'est la porte ouverte à l'émancipation intellectuelle de l'individu. Ça, c'est vraiment une énergie qui enclenche le détachement intellectuel pour libérer le développement spirituel. Donc pour caricaturer à l'heure actuelle ce qui se passe dans le monde, en fait, on a Pluton qui est mal utilisé et en fait c'est la vision des extrémistes quoi. Voilà, il faut comment dire, destruction des impuretés, parce que quand on a une vision extrême, eh ben, tout ce qui n'est pas comme ce que nous on pense, c'est impur, donc on le détruit. Et d'un autre côté, on a Uranus, qui lui, par contre, eh ben, voilà, il nous pousse vraiment à une nouvelle liberté à s'émanciper. Ça crée quoi ? Ben, ça crée au niveau des populations, eh ben, voilà, les extrémistes de l'autre, et puis d'un autre côté, peut-être une pensée un peu plus, je sais pas, que je vais qualifier européenne, mais ben, ouais, pourquoi pas. Et ben, y a des tensions. Alors, comment ça va être réglé ? De toute façon, ça va se vivre. Je vous ai dit en introduction, c'était cyclique. Donc, ben, après une révolution française, après une seconde guerre mondiale, ben, on vit ça. Et puis, ben, certainement que... alors, soit on agit à l'extrême, on devient aussi extrémiste, tout s'arrête, boum, c'est... Je ne sais pas comment ça va... Et on ne peut pas savoir comment ça va se faire. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va le régler à un certain niveau. Et dans quelques années, quand on va retrouver ce carré, on revivra la même chose. Alors, je ne dis pas qu'on revivra une révolution, mais il y aura ce même ordre d'idées entre une libération encore d'une idée nouvelle et puis d'autres qui vont résister et qui veulent quelque chose de très carré, très sécuritaire, très conforme. Voilà. Si loin, si proche.
Quand la Lune et Neptune jouent avec la Terre.
Vous avez vu, Philippe, il se fait plaisir quand il a parlé à l'antenne, carrément. Dans le ciel, à l'heure actuelle, quelque chose un peu plus léger aussi, puis on va commencer avec une planète. On a un petit Mercure qui est rétrograde. Alors, pareil, alors je vais synthétiser un peu, sinon c'est... Oui, alors Mercure, il n'est pas plus petit que ça. Et... Mercure, en astrologie, c'est la communication, c'est toute forme de communication, c'est la façon dont on se tient aussi, parce qu'on communique avec notre corps. Il est rétrograde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on le regarde, en fait, quand on est sur la Terre, on a l'impression qu'il recule. Alors oui, je sais, on va me dire, hein, les planètes, ça ne peut pas reculer, hein, le bon scientifique. Non, bien sûr, mais imaginez un parachutiste, en fait. Vous êtes en train de le filmer, il saute, je suis sûre que vous avez déjà tous vu ça à la télé. Au moment où il arrive dans l'air, on a l'impression qu'il remonte, le parachutiste, alors que non, en fait, il ne remonte pas. Mais il est freiné d'un seul coup par le parachute. Là, c'est exactement pareil avec des planètes qui sont rétrogrades. D'un seul coup, elles n'ont plus la même vitesse, elles vont ralentir, et donc on a l'impression qu'elles reculent. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, Mercure, en règle générale ? Donc, la communication, on parle tout ça. Quand c'est rétrograde, ça veut dire qu'on va mettre, je sais pas, un petit aspect par-dessus. Non. Pardon, je réponds en même temps à la technique, je ne sais pas si vous comprenez bien, auditeur, mais là, ça... Donc, Mercure rétrograde, la communication peut être entravée, un petit peu. Quand c'est mal aspecté, toujours, je le dis bien, quand on le vit moins bien, entre guillemets. Donc, entravée, ça veut dire, bah, je ne sais pas, mon téléphone portable qui ne marche pas, mais pourquoi est-ce qu'il ne marche pas en ce moment, quoi ? Les portables, les ordinateurs aussi, la technique, ça mergouille. On bafouille plus, on ne se comprend pas entre copains et tout. Par contre, un Mercure rétrograde, ça peut être aussi... Alors, moi, à ma naissance, je vais vous dévoiler un peu, j'ai Mercure rétrograde dans mon thème, j'en ai plein des planètes rétrogrades. Donc, ça m'aide, par contre, à ne pas parler trop vite, par exemple. Je pèse le pour et le contre. Jusqu'à un moment où je vais dire, bon ben non, là je peux plus laisser passer, et hop, je balance, ou j'explose. Mais voilà, ça peut, c'est pas forcément mauvais, on peut pas, et on communique mal, ça peut être aussi justement, hop, on est tempéré, on pèse le pour et le contre, et hop, on parle comme il faut. Voilà pour Mercure.
Je crois qu'il y a des petites réactions.
Ouais, bien sûr. Alors après, je rappelle, hein, je peux peut-être pas répondre à toutes les questions, parce que bon.
Ah non, mais c'était deux commentaires par rapport à ce que tu disais. Déjà, le terme de révolution, c'est lui-même, ça indique que c'est cyclique en fait, puisque à la base une révolution c'est un tour sur soi.
Absolument.
Et l'autre, c'est par rapport à ce que tu disais de Uranus là, et ça me faisait penser à Nuit debout, et je me disais Nuit debout, peut-être que c'est une manifestation de ça, et en plus Nuit debout, tu vois, la nuit, je sais pas, ils sont attirés par les étoiles. Enfin voilà, je.
pas mal. Et alors pour aller plus loin, parce qu'il faut faire, il y a plein de parallèles. Et puis moi, quand je suis partie sur l'astrologie, je ne m'arrête plus.
Ça se voit.
Uranus, c'est Uranos. Donc si vous reprenez un peu toute la mythologie, vous allez voir le dieu Uranus. Ça vous donne toute une symbolique qu'il faut aussi appliquer en astrologie. Merci Philippe de m'avoir coupé. Allez, vas-y, lance le générique. Ça, tu sais ce que c'est un acte manqué, Philippe.
Tout à fait.
Merci.
C'est ce que j'allais dire. Bon, donc voilà, après avoir inauguré cette belle nouvelle rubrique, nous retrouverons Sandrine et ses astres chaque mois au sein de cette émission. Et nous ne désespérons pas de faire de vous de parfaits...
astrologues.
Oui, enfin amateurs en tout cas.
Ouais, sans être parfait, parfois c'est intéressant de remarquer, de noter des petites choses
tout à
cycliques dans nos vies.
Bon, eh bien, voilà, c'est désormais mon tour et le dernier sujet de notre émission.
Vas-y, chaussette.
Du calme, les filles. Où donc, je disais que j'allais vous parler des déchets et de la conscience. Alors, a priori, quel est le lien? Tout simplement, je vais vous parler de la démarche zéro déchet. La démarche zéro déchet, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, j'ai commencé à en parler autour de moi. Concrètement, j'ai bien compris, on m'a dit, qu'est-ce que c'est encore ton truc zéro déchet, là, franchement, chaussette? T'as pas bientôt fini avec tes trucs de bobo écolo hippie? Quand seras-tu enfin sérieuse et responsable? Oui, il est vrai qu'il est réellement plus facile de critiquer et de dénigrer que de faire. Je vous explique. La démarche zéro déchet, ou presque zéro déchet, si l'on veut être plus honnête, affiche un objectif premier, celui de produire le moins de déchets possible. C'est un état d'esprit, un mode de consommation et une prise de conscience face à des chiffres toujours plus ahurissants. Selon l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, nous produisons en moyenne 590 kg de déchets par an et par personne. 365 kg qui partent à la poubelle, générale, on va dire, la poubelle classique, et 225 kg en déchetterie. Sur ces kilos, 81 kg représentent des emballages, 20 kg représentent des aliments, dont 7 kg non consommés, encore emballés, et 16 à 20 kg sont des équipements électriques ou électroniques. Alors oui, nous avons appris désormais, enfin plus ou moins pour certains, on ne citera pas, depuis une quinzaine d'années à trier nos déchets, les recyclables et les autres. Mais qu'est-ce que ça donne au final? Selon le Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets, le CNID, 30% de ces déchets sont incinérés. 36% partent en décharge, c'est-à-dire dans notre environnement, nos sols, nos océans, nos rivières. 20% seulement sont recyclés et 14% sont gérés biologiquement. Ils finissent en compost ou en méthanisation des déchets organiques. La quantité de déchets non recyclables reste encore considérable et le coût de la collecte, de l'incinération et du stockage de ces déchets augmentera tant que les volumes de déchets augmenteront, et ce, malgré le tri. Et c'est là, en tant que consommateurs, que nous avons un rôle essentiel à jouer. Bien avant l'étape du tri des déchets, ce sont déjà nos choix au moment de l'achat d'un produit et la manière dont nous l'utilisons qui ont un effet sur la quantité de nos déchets. Chaque geste compte. Bien s'acheter et s'équiper, c'est-à-dire se procurer les produits dont nous avons réellement besoin, neufs ou d'occasion, parfois simplement les emprunter, voire les louer. Lors de l'achat, limiter les emballages, privilégier les produits durables, peut-être plus chers à l'achat, mais qui dureront dans le temps. C'est aussi souvent une manière de soutenir l'économie et l'emploi local, en se tournant vers des produits fabriqués chez nous, avec un vrai savoir-faire et des matériaux plus nobles. Mieux utiliser, en réparant les objets qui peuvent l'être, limiter les gaspillages, par exemple en refusant les imprimés publicitaires. Moins jeter, en donnant, prêtant ou vendant nos objets, en compostant nos déchets organiques. Trier et donner ainsi une seconde vie aux produits. Certaines matières, verre, papier, carton, métaux, certains plastiques, pas tous, peuvent être recyclés facilement. Vous vous sentez concerné? Il est une démarche qui commence à faire du bruit. La démarche zéro déchet et qui pousse ce rôle de consommateur encore plus loin. Consommer de manière responsable, allonger la durée de vie d'un objet, fabriquer ses propres produits, des actes qui font désormais partie du quotidien de nombreuses personnes ayant tenté l'expérience. Car quand on se penche sur notre poubelle, celle qui part à l'incinération, même en voulant être vertueux, c'est compliqué. Du genre... Moi, par exemple, j'achète à la Biocoop beaucoup d'aliments en vrac, je fais du compost, j'achète mes légumes en direct aux producteurs locaux, voire je fais pousser dans mon potager. J'ai 3 bacs de tri à la maison. Souvent d'ailleurs, ça étonne les gens. Et là, j'éventre ma poubelle d'ordures ménagères, et que vois-je? De l'emballage, et encore de l'emballage. Du contenant à usage très limité dans le temps, mais à persistance très longue dans notre environnement. Alors voilà, le zéro déchet... Cette démarche, c'est pousser le vice, ou l'enjeu, aurais-je envie de dire, à réduire à peau de chagrin cette poubelle pleine d'emballages. Ces emballages que, bien sûr, nous avons payés une fois, au moment de l'achat, et que nous payons une seconde fois pour leur traitement en déchetterie. Pas mal les pigeons, non? Ainsi, la base, c'est de refuser tout ce dont vous n'avez pas besoin. Les sacs plastiques, les serviettes en papier, la pub, 31 kilos par an quand même, par personne. Réduire ce dont vous avez besoin ou que vous ne pouvez pas refuser. Désencombrer, adapter votre consommation à vos besoins réels, arrêter de stocker comme si la guerre allait éclater demain. Privilégier les achats en vrac en magasin ou dans les marchés, munis de vos propres contenants, boîtes plastiques réutilisables, type Tupperware, sacs en tissu. On aura peut-être bientôt à en parler. Troquer, échanger, donner. Réutiliser ce qui peut l'être, privilégier les contenants réutilisables, donc en tissu, en verre, en inox, acheter d'occasion, réparer, c'est autant de déchets que vous ne produirez pas. Une partie intéressante de cet acte, c'est la créativité qui va avec. Par exemple, j'ai reçu l'an dernier un cadeau, un cadeau emballé dans un joli tissu, savamment natté. Les Japonais en sont spécialistes, paraît-il, et nomment ça le furoshiki. En plus, autant l'emballage devient une part du cadeau du fait de l'attention que son créateur aura mis à le confectionner. Bref, je pourrais vous parler durant des heures sur le sujet, mais le mieux, c'est que si cela vous intéresse, vous allez voir de vos propres yeux. Sur Internet, on trouve pléthore de sites sur le sujet. En librairie, des livres sont sortis également, notamment celui de la franco-américaine Bea Johnson, avec son Zero Waste Home, qui est quand même, je le reconnais, assez rigide dans la matière. Pour ma part, je me suis régalée avec l'excellent « Famille presque zéro déchet » de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret, bourré d'illustrations très drôles, ludiques et très pédagogiques. À lire également un petit guide de l'ADEME en ligne qui fait 13 pages. Ça se lit vite, ça s'appelle « Réduire ses déchets et bien les jeter ». Vous tapez sur votre barre de recherche sur Internet « Réduire ses déchets et bien les jeter ». Vous tomberez directement sur le PDF. Enfin, pour terminer, je voudrais parler de quelques idées reçues sur ce mouvement, donc la démarche zéro déchet, qui, bien qu'il commence à avoir un peu de recul désormais, reste marginal et souffre encore de rumeurs. Produire zéro déchet, c'est possible. Je vous dirais quand même faux, parce que même si un tas de solutions sont décrites dans les livres pour à peu près tous les domaines de consommation, à quelques moments du quotidien, on ne peut encore pas réaliser cet acte de ne pas jeter. Qu'en est-il du papier toilette, par exemple ? Le fait que ce soit une pratique chronophage, mais là aussi je vous dirais faux. Peu d'études se sont intéressées au temps passé à faire les courses en grande surface ou au marché, et on en passe du temps. Moins jeter ne correspond pas à passer plus longtemps à réapprovisionner les placards. Le temps gagné aéré dans les grandes surfaces est parfois réutilisé, et notamment à cuisiner, une des véritables bottes secrètes de la démarche zéro déchet. Le mode de vie zéro déchet est une pratique récente. Vrai et faux, on parle de mode actuellement, alors que la première redevance incitative date de 1945 et est autrichienne. Aux États-Unis, la préoccupation date d'une trentaine d'années. C'est l'association EcoCycle, à but non lucratif, qui a initié la démarche auprès des collectivités territoriales en France. Et les premiers travaux ne remontent qu'à une quinzaine d'années, certes, mais en matière de pratiques individuelles, donc je vous en parlais tout à l'heure, la référence dans le mouvement est Bea Johnson, qui a démarré, elle, depuis 2008 quand même, cette expérience. Consommer sans emballage coûte cher. Vrai et faux, cette même Bea Johnson avoue avoir fait 40% d'économies, qui viennent aussi d'une façon de consommer centrée sur l'essentiel. En réalité, la pratique du zéro déchet modifie fondamentalement les modes de consommation pour une raison simple. La plupart des aliments sans emballage, dits vendus en vrac, se trouvent dans les magasins bio. Et les prix des matières premières sont plus élevés que dans les supermarchés. En revanche, les produits transformés étant difficiles à trouver sans emballage, la plupart des gâteaux ou bonbons doivent se faire à la maison, d'où un coût de revient moindre. Seuls les occupants de maisons peuvent s'impliquer concrètement dans cette pratique. Faux. La base de ce mode de vie est le compost, comme le signifie l'ADEME. En compostant nos déchets organiques, nous pouvons alléger notre poubelle de 60 kg de déchets par an et par personne. Pour cela, effectivement, la propriété d'un jardin facilite souvent la démarche. Cependant, il est aussi possible de créer son lombricomposteur dans son appartement ou encore de profiter de ce que certaines communes peuvent mettre à disposition pour les immeubles. N'hésitez pas à le demander à votre collectivité. Le zéro déchet ne peut pas se pratiquer partout. Il est vrai, là, j'avoue quand même, la situation géographique peut jouer un véritable rôle dans la mise en place d'un tel projet de vie. S'il est plus facile de trouver une biocoop ou un magasin en vrac en ville, il est cependant moins aisé de se procurer des aliments chez le producteur local, et inversement. L'État a d'ailleurs mis en place une politique incitant les communes à devenir plus responsables. C'est l'opération Territoire zéro déchet, zéro gaspillage, qui a pour but de réduire les sources de gaspillage et donner une seconde vie aux produits, ainsi que de mieux recycler. Elle regroupe depuis fin 2015 7 millions de Français et l'économie d'une telle initiative est estimée actuellement à 43 millions d'euros par an. Enfin, dernière idée reçue, et puis après je vous laisse, ce mode de consommation nuit à notre économie. Vrai et faux, je vous dirais surtout un peu de faux, parce que telle qu'elle existe aujourd'hui, notre économie va être bouleversée par la montée en puissance de ce mouvement. Moins de consommation d'emballage égale moins d'emplois dans le conditionnement et la production de plastique et de carton. En revanche, la pratique induit à elle seule des emplois, notamment dans le tri des déchets, dans la réparation et le recyclage de l'électroménager, et amène donc à repenser totalement notre système de fonctionnement en une économie circulaire. De plus, de très nombreuses études montrent désormais qu'acheter dans une entreprise locale et indépendante crée trois fois plus d'emplois, fait circuler trois fois plus de richesses, permet de disposer de trois fois plus de taxes locales pour faire vivre la collectivité et rapporte trois fois plus de dons pour les associations. Alors que sur 1 euro dépensé dans une multinationale, très peu restera dans l'économie locale. L'argent sera capitalisé et participera à renforcer les pouvoirs des quelques géants mondiaux au détriment de l'économie du lieu. Les habitants perdront leur pouvoir sur leur économie. Maintenir une économie locale, contrôlée par les habitants d'un territoire, limite les délocalisations, la spéculation et l'évasion fiscale.
When you're in the
Et voilà, c'était un petit hommage à Billy Paul avec sa chanson Your Song qui nous a quittés tout récemment. Un artiste que moi j'aimais personnellement beaucoup et que je pense que beaucoup d'autres appréciaient, notamment cette chanson qui est vraiment formidable.
Ouais, moi je vois les auditeurs qui bougent, je suis sûre.
Hein ouais,
les coups de radio, clair. Ils sont tous...
Bon alors sinon, des petites réactions éventuellement sur cette démarche zéro déchet, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que...
Bah moi, je suis toute seule à la maison, donc pour avoir du retour, ça va être dur. Mais je vous inviterai à venir voir ma poubelle de recyclage d'ici un mois.
Cool.
Voilà.
Très bien. Rendez-vous est pris.
Voilà.
Alors moi, je vais réagir. Alors comme toujours, je vais...
Je suis pénible avec
comme
ça.
Toujours, c'est le petit caillou c'est dans la chaussure, Sandrine.
Ouais, non, je trouve que c'est un peu un effet de mode. Moi, j'aimerais qu'on repense à comment vivaient nos grands-parents et même avant eux. Alors, à la pharmacie, on vous donnait le nombre de cachets. Alors, vous en aviez besoin de c'est trois, mais vous en aviez trois.
Ouais, tout à fait.
Le lait, vous aviez un bidon de lait. Moi, les œufs, ils n'ont jamais eu de boîte en carton. C'était dans une boîte en plastique, toujours la même, toute leur vie qu'ils ont vécu. Ils avaient un composteur. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Moi, j'ai l'impression où, ouais, ils étaient peut-être, je sais pas, plus sages que nous. Je ne sais pas si c'était plus sages, mais ouais, on revient à des pratiques qui ont toujours existé.
Alors, c'est un retour à des pratiques.
Peut-être qu'on en parle un peu plus, mais c'est un retour à des pratiques, quoi. Nouveauté, nouveauté, oui et non, quoi.
Ouais, mais c'est aussi pour moi que la question se posait pas forcément à leur époque, parce qu'il n'y avait pas le plastique comme il y a maintenant. Le carton, c'est qu'on a fait énormément de progrès entre guillemets.
Hein, voilà.
Mais
voilà.
En chimie, etc., des conditionnements, des usines, des plats préparés. Enfin, la société actuellement, ça a rien
ça
à voir.
Ça a changé,
quoi.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est l'idée de. Ouais, moi j'avais une super idée nouvelle. Maintenant, il y a rien de nouveau.
Non, bien sûr que les choses, elles se réinventent.
C'est ça. Ouais, hein.
c'est et quand tu vas pour ceux qui mangent de la viande, par exemple, quand tu vas chez le boucher au supermarché, il faut quand même savoir que si ta tranche de veau ou de machin, elle coûte plus cher en emballage, c'est parce que chez le boucher, c'est parce que l'emballage, tu le payes.
Ouais,
comme
ouais,
tu disais,
ça,
tu le payes plusieurs fois.
C'est ça.
Voilà. Donc,
c'est
ça. Autant faire marcher la boucherie.
Non, mais c'est vrai que c'est vraiment un retour à des pratiques. Notre modernisme nous a poussé en fait à un excès. Aujourd'hui, on le voit. On pensait que c'était la modernité de disposer de tous ces emballages. Et aujourd'hui,
et
finalement,
on y revient,
voilà, ça nous embête plus qu'autre chose. Donc,
Après, tu as parlé beaucoup de tout ce qui était alimentaire ou ce genre de choses, mais il y a aussi énormément de choses qui sont des gadgets dont on n'a pas besoin. Je vois les jouets pour les gamins. Maintenant, tu as des montagnes de jouets, du plastique de partout. Et enfin, voilà, des collections de figurines, de machins. Tu as toujours des nouveaux trucs.
C'est pour ça que c'est aussi, comme on dit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est souvent ce qu'on dit. C'est aussi un choix, c'est-à-dire refuser certaines choses, savoir qu'est-ce qu'on veut comme jouet pour nos enfants.
C'est un bon déchet, t'as un déchet mort, c'est ça?
Exactement.
Il y a aussi une pratique qui consiste à enlever l'emballage directement dans le magasin.
Absolument,
par exemple, il y a des gens qui enlèvent les cartons, par exemple, autour des yaourts, ils le laissent dans le rayon.
Trucs, ouais.
Et il y a des réactions des gens du magasin, des
alors moi je me suis jamais fait choper en fait, mais du coup je sais pas, je pense qu'ils seraient peut-être pas très contents que je leur laisse leur truc, mais je vois pas pourquoi ça irait encombrer ma poubelle quoi.
Et en plus normalement je crois qu'il y a, faudrait vérifier les textes, mais je me demande s'il y a pas une obligation de pouvoir vendre quand même les produits à l'unité. Les yaourts on les achète tous par 4, 6, 8 parce qu'ils sont comme ça, mais normalement le magasin a l'obligation de les mettre à l'unité.
Ah bah je te garantis qu'ici
les
supermarchés ils te renvoient.
Je suis pas sûre de moi en disant que c'est une obligation qu'il y a un texte, mais quand même il me semble qu'il y a quelque chose.
On va creuser.
Ouais.
Creusons.
Très bien. D'autres réactions?
Formidable. Voilà.
Non.
Belle émission.
Superbe. C'était une émission à 5. Là, ça fait plaisir. Voilà, on arrive à avoir une dynamique là entre filles. Donc, on le rappelle quand même, entre filles. Mais nous sommes toujours ouvertes à des venues masculines ponctuelles ou régulières.
Allez, les taureaux comme Philippe, oui, vous êtes acceptés.
Le genre de ce lit à peu près.
Voilà. Tu comptes pour deux, c'est vrai. Bon, bah alors, pour la prochaine, tu seras là, alors. On te note, hein. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Merci
les filles d'avoir animé cette émission, toujours dans la bonne humeur et dans la détente. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis, si vous êtes encore là.
Et auditrices.
J'espère qu'on vous a pas tous perdus. Et auditrices, ouais, c'est vrai. Faut arrêter de dire le masculin l'emporte sur le féminin. Même nous, on est conditionnés. Cette émission sera diffusée mardi à 11h et jeudi à 16h et elle sera disponible en podcast sur le site internet de Radio Sainte-Afrique. Et après avoir remercié les filles de l'émission et les auditeurs auditrices, bien sûr, merci à Phil pour la technique.
Merci Phil.
Technicien. Et merci Corinne qui actuellement s'initie aussi à la technique.
Petite apprentie.
Être le pendant féminin de Phil dans quelques temps.
Waouh, le pendant féminin de Phil.
Donc on se retrouve pour la prochaine. À très vite, merci.
Bye bye.
Ciao.
Miaou. 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 Oh, je vais te voir un roman.
Chalor.
Miaou. Miaou, 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 miaou.
Le barak.
Miaou.
Le bar à quoi ?
Le bar à chatte.
Le talk chat de Radio Sainte-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chatte.
Nouvelle émission féline de Radio Sainte-Afrique.
Miaou. Miaou.
Cha-cha-cha.
Saltimbanque. Le Baratat, l'émission chat, heureuse,
de Radio Sainte-Afrique.